RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, bienvenue, c'est parti pour les grandes gueules, 3 heures de débat, de liberté d'expression. Alors c'est vrai que ce matin on a un peu la gueule de bois, on va y revenir dans un instant. Mais en tout cas, merci d'être là, d'être fidèle au 32-16 jusqu'à midi et participer, on compte sur vous. Alors autour de la table, Joël Dagosiri aujourd'hui, notre coach de vie. Bonjour Joël.
Bonjour à tous.
Charles Consigny qui a gardé le maillot de l'équipe de France, car hier soir il était devant le match comme des millions de Français. Salut Charles.
Bonjour à tous.
Et puis nous accueillons une petite nouvelle, elle s'appelle Ophélie Rock, elle est prof de lettres, essayiste. Bonjour Ophélie.
Bonjour Olivier.
Ophélie s'est fait remarquer notamment sur les réseaux sociaux avec une série... Oui. De portraits, des portraits plutôt bien acide. Brossés, acides. Et Joël, tu les as lus ces portraits, les portraits de personnalité.
Je les ai tous lus, ils sont drôles. Et en plus, ça tape à droite, ça tape à gauche.
Ah, ça tape partout.
Ça tape partout.
Non, c'est ce qu'il fallait.
C'est vraiment, il faut aller voir, c'est magnifique à lire.
Charles, tu les avais lus ces portraits?
Je les ai vus passer, de là à dire que je les ai lus. Mais je vais les lire maintenant.
Je suis obligé.
Maintenant, je suis curieux. J'ai vu en tout cas qu'ils avaient du succès.
Bon alors, Ophélie, prof. De nouveau prof en septembre.
Oui, de nouveau. Bah, ça va faire la 10e année.
Donc, d'ailleurs, tu avais écrit des livres sur.
J'avais écrit un livre sur l'enseignement qui était sorti il y a une année et demie à peu près. Et puis j'en ai un nouveau qui sort à la rentrée sur les incels.
Parfait. Ben, bienvenue dans les grandes gueules. Je disais, nous avons tous ce matin la gueule de bois après la prestation assez pitoyable de l'équipe de France hier.
C'est fini pour les Bleus dans cette Coupe du Monde. Le chemin s'arrête à Dallas. L'Espagne était trop forte. Les Bleus ont pris une petite leçon par les Espagnols. Ils peuvent rentrer tête basse après cette défaite 2-0. Les buts de Yarzabal et Pedro Porro. Et les Bleus sont en pleine détresse.
On récupérait les ballons sur des récup qu'on a fait un peu, des récup hautes. Techniquement, les premières passes, les premières touches, elles n'étaient pas dignes d'une demi-finale de Coupe du Monde. Et on n'a pas su leur faire mal quand on devait leur faire mal.
Et oui, on a le blues ce matin. La 3e étoile ne sera pas sur le maillot de Charles Consigny, pas cette fois-ci en tout cas. On a été impuissant, on a été dominé, dépassé, et on s'est fait marcher dessus littéralement par l'équipe espagnole. Certains joueurs, on l'a vu, étaient en dessous de tout, comme Olise ou Lucas Digne. Il y a eu aussi un mauvais coaching de Didier Deschamps, faut le dire, hein, Didier Deschamps, on l'adore, mais là, cette fois-ci, il s'est loupé face à une équipe bien organisée. Pas surprenant, parce que les Espagnols, quand on a l'habitude de suivre un peu le foot, ils jouent toujours comme ça. Mais là, on s'est fait avoir et on sort finalement de cette compétition sans panache. La casse à Dallas, c'est le titre, très beau titre de l'équipe ce matin. Alors, tout le monde a vu le match autour de la table, bien entendu. Joël, t'es arrivé, t'avais des petits yeux ce matin, t'avais l'air triste.
C'est très dur. Vraiment,
t'as du mal à t'en remettre.
Non, vraiment, c'est très dur, d'autant plus que j'avais commencé après le match contre le Maroc. Je m'étais dit, détache-toi émotionnellement. Quand je me suis dit, ça va être l'Espagne, enfin, quand j'ai vu que l'Espagne s'était qualifiée, je me suis dit, détache-toi émotionnellement, parce que là, ça va être compliqué. Moi, j'ai vu l'Espagne jouer, je me suis dit, ça va être très dur. Ils sont forts. Ils sont vraiment très forts. Bien sûr, quand on regarde les réseaux sociaux, alors peut-être que mon algorithme était aussi un peu biaisé, mais il y avait beaucoup de la France est géniale, la France est vraiment les, mais qui peut battre la France, mais qui peut les arrêter?
On s'est vu un peu trop beau.
Bah oui, on s'est vu un peu trop beau, mais j'avoue que quand j'ai vu l'Espagne jouer, je me suis dit, il faut que quelqu'un les élimine vite avant qu'ils arrivent sur nous, parce que ça va être un bulldozer. Et ça l'a été. Ça a été un bulldozer. L'Espagne, au milieu, faut dire la vérité, c'était un carnage. C'était un vrai carnage. J'ai regretté Pogba. Je me suis dit, putain, il nous manque Pogba. C'est fini, il reviendra plus. Faut s'en remettre. Mais c'est dur parce que, dans l'ambiance générale de la France, dans ce que la France représente, presque, il n'y avait plus que ça, quoi. Je me disais, au moins là.
Il y avait un rêve américain.
Ouais, je dis
qui
là.
Qui a été brisé, là, c'est hier
moins,
soir.
Au moins, peut-être là, tu vois, on va avoir une victoire. Il nous faut. Et moi, je suis en manque de victoire. Tu comprends? Là, je suis comme une sorte de junkie. J'ai besoin de ma dose de victoire et j'ai pas de dose de victoire, partout, dans tous les domaines de la France. Donc, ouais, c'est dur. Mais bon. Voilà, c'est la vie, c'est le foot.
C'est le sport.
On va avancer, quoi.
Ophélie, t'as regardé le match hier
soir? Ouais, j'ai regardé le match. Alors, je n'ai pas la même charge émotionnelle que Joël, visiblement.
Ah oui, toi, finalement, t'as du recul?
Oui, parce que je suis pas déjà une footeuse de base, donc je l'ai regardé, voilà. J'ai trouvé le match assez ennuyant, mais c'est vraiment peut-être quelque chose parce que je ne connais pas suffisamment ce sport-là.
Si, tu peux le dire.
Mais j'ai trouvé, honnêtement, qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'intérêt à le visionner. Et surtout, alors c'est peut-être aussi parce que c'était, enfin que les équipes étaient aux États-Unis, mais il n'y avait pas assez d'inserts, je trouve. C'était vraiment un match qui était filmé de très loin.
Oui, alors ça c'est un problème, c'est et que c'est, les réalisateurs américains
voilà, n'ont pas
très
l'habitude.
Loin. Non, il y a très peu de
gros plans. Et du coup, je trouvais
on s'y habitue depuis le début de la compétition, ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas.
Mais c'est vrai que pour moi, qui n'avais pas regardé vraiment d'autres matchs avant, bah, je trouvais ça un petit peu plat, quoi. Et puis voilà, puis ça m'a pas fait rêver, quoi, en fait.
Charles, toi qui regardes rarement des matchs de foot, hier, t'étais à fond devant ton écran.
Alors, j'ai commencé à regarder après que nous ayons pris deux buts. Parce que je me suis dit, que se passe-t-il? Que font nos bleus? On n'aurait pas pris les buts, j'aurais laissé notre équipe jouer sans me pencher sur le sujet. Constatant qu'elle était dans la difficulté, j'ai estimé qu'il était de mon devoir
de la supporter.
De la soutenir. Donc j'ai regardé ce match avec effarement. Alors, je n'y connais rien, donc je présente par avance mes excuses à ceux qui s'y connaissent. Mais j'ai quand même eu l'impression que nos joueurs avaient quelque chose de... Alors je comprends quand on se prend deux buts, j'imagine on est assez vite démotivé, mais je trouvais que...
Il n'y a pas eu de réaction.
Mais si, alors un peu.
À
un moment donné, ils étaient quand même plus agressifs et tout ça, mais j'ai trouvé qu'ils ne couraient pas, que parfois certains tentaient des trucs et il n'y avait personne pour les aider quand ça s'approchait du but. J'avais l'impression qu'on était tout le temps sous-effectif. Alors c'est peut-être... une perception de celui qui a l'impression que son équipe perd, il pense que l'arbitre est vendu et que l'équipe adverse est deux fois plus nombreuse, mais quand même très souvent on avait 3-4 joueurs français qui s'approchaient du but espagnol contre 10 joueurs espagnols qui défendaient leur but. Donc j'ai trouvé qu'ils avaient pas l'air ils étaient pas dans leur assiette, quoi, ils y étaient pas.
En fait, c'est
mou.
Ce qui est triste, c'est de perdre de cette façon. Parce que, on savait que l'Espagne, c'était une grande équipe. Elle faisait partie des équipes favorites avec la France, hein. Donc, on sait que ça se jouait. Il n'y a pas tellement de surprise de voir l'Espagne à ce niveau. Mais c'est de perdre de cette façon qui nous rend un peu triste ce matin. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de match dans le sens où à aucun moment on les a inquiétés. À aucun moment on s'est dit, ça peut se retourner.
Je vais compléter en un mot, et après je monopolise pas la parole. Parfois, il y a des pays qui ont la baraka et d'autres qui ne l'ont pas. En ce moment, l'Espagne a la baraka. L'Espagne a été très en tête de pont contre l'intervention israélienne à Gaza, sur beaucoup de sujets internationaux, sur le carburant. Elle a été leader dans plein de sujets. Elle a une économie qui tourne bien. C'est un pays qui a la baraka. Alors que nous, on sent qu'on arrive au bout d'un truc, on est complètement paumé politiquement, on n'a plus de gouvernement, on n'a plus vraiment de parlement.
Il nous reste les bleus. On disait finalement Didier Deschamps.
Oui, mais non.
Au moins, avec Didier Deschamps et ses bleus, on est fort.
Je me demande s'il n'y a pas un truc global on a besoin de se régénérer.
Donc c'est la France de la
loose. On a besoin d'un nouveau départ. Là, on est un peu dans la loose.
Mais pardon, mais Ophélie, est-ce que la France se voit pas trop belle? Mais est-ce qu'on pourrait pas appliquer ce précepte un peu à beaucoup de domaines, en fait? Est-ce qu'on se voit pas trop beau à chaque fois?
Enfin, je pense que c'était vrai il y a peut-être encore 5-6 ans, mais honnêtement, qui se trouve encore beau maintenant de nos jours en France? Moi, j'ai l'impression que tout le monde, en effet, baisse un peu piteusement la tête en se disant que c'est foutu, hein. Pour plein de choses. J'ai l'impression que le pays ne tient que sur la résilience. C'est-à-dire que les profs tiennent par la résilience, les infirmiers tiennent par la résilience, enfin, toute personne qui fait un boulot ne le fait que parce qu'en fait, c'est en attendant la chute d'une certaine manière. Mmh. Et c'est catastrophique. Il reste encore une année à tenir comme ça. Je espérais qu'il y aura après quelque chose. Quoi qu'il se passe, qu'il y ait un nouvel élan. Parce que là, on est en train de s'enfoncer. On va finir dans un tombeau, quoi.
Mais Joël.
Non, mais ce pays, il tient sur des exploits individuels, en fait. Il n'y a pas de structure.
Et hier, on attendait l'exploit individuel de Mbappé, qui n'est pas
venu. Oui, de Mbappé, d'Olysée. Et quand tu regardes sur les JO, par exemple, où on a nos grands champions, Teddy Riner, ou Léon Marchand, etc. En fait, ce sont des exploits individuels. Ouais. Tu vois, et il n'y a pas vraiment une structure, par exemple, sportive en France qui produit en masse des champions, des bons joueurs, des très bons joueurs, oui, mais des gagnants. Il n'y a pas
oui,
de structure.
Oui, mais est-ce que cette équipe s'entend bien?
Oui.
Oui,
est-ce qu'ils essayaient pas? Moi, je me suis parfois demandé.
Bah, hier, c'est.
Encore, j'y connais rien. J'avais l'impression que certains essayaient de marquer pour être celui qui marque. Et qui avait pas forcément un esprit d'équipe fabuleux. J'en voyais pas mal qui tentaient des tirs.
C'est vrai que l'Espagne a donné une leçon de collectif.
Ah ouais, l'Espagne, c'est très, très collectif.
Mais
ils sont redoutables, les Espagnols. De toute façon, faut se méfier d'eux.
C'était la meilleure équipe. C'est vrai, c'était une équipe.
Dans tous les domaines.
Et nous, on est peut-être moins une équipe.
Et nous, on était moins équipe. Et moi, ce que je veux dire aussi, c'est que moi, je rends hommage à Didier Deschamps, honnêtement.
Alors, c'est son avant-dernier match parce qu'il y a encore la petite finale, comme on dit. C'est-à-dire, pour le match pour la troisième place, c'est samedi. Ça sera soit face à l'Angleterre, soit face à l'Argentine. Et là, celui-là, ça sera le dernier match de Didier Deschamps.
Et après, c'est Zidane?
A priori.
Normalement, c'est Zidane. Ouais,
ça fait des années qu'on annonce Zidane.
Il se prépare, il se prépare.
Faut pas mentir, Didier Deschamps. C'était un défenseur, si je me trompe pas. Enfin, quand il
était un milieu de terrain.
Un milieu de terrain
défensif.
Oui, exactement. Et je suis pas sûre qu'on réfléchit pareil, qu'on pense le foot pareil quand on l'a joué à ce poste-là que quand on l'a joué en tant qu'attaquant. Donc peut-être que moi, ce que j'ai vu là sur les deux mi-temps, ça ressemblait à la première mi-temps de France-Argentine en 2022. Donc c'était catastrophique en fait. Et bon, c'est dur, mais bon.
Voilà. Hier, il y avait plus de 20 millions de Français devant la télévision, devant M6. Les chiffres viennent d'être publiés. Lucien est avec nous et Lucien a vu le match comme nous tous. Bonjour Lucien.
Oui, bonjour. Bah, écoutez, ce que j'entends sur le plateau, c'est aberrant. Parce que quand vous dites que l'Espagne a dominé le match, déjà d'une, l'arbitrage nous a massacré du début jusqu'à la fin.
C'est la faute de l'arbitre.
Le même match que nous. Le premier but qui était marqué entre l'Espagne et la France prenait un avantage énorme. Les Espagnols ont marqué sur penalty. Yamal, il pousse le ballon du bras avec le bras. L'arbitre, tous les joueurs d'équipe de France sont venus voir l'arbitre pour qu'il vienne sur la vidéo. Même Deschamps était scandalisé et même venu voir l'arbitre.
Donc c'est la faute de l'arbitre si on a perdu hier.
Non. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Non. Écoutez bien ce que je veux dire. Psychologiquement, quand vous jouez une demi-finale, c'est très serré. Tout le temps, on le sait, les spécialistes vous le diront. Mais quand vous sifflez un pénalty, qu'il n'y a pas pénalty, et que l'arbitre...
Ouais. C'est vous qui dites qu'il n'y a pas pénalty, Lucien, c'est vous qui dites.
Mais monsieur, regardez les images.
Oui, j'ai vu les images.
Même Gilbert Montagnier, il vous le dirait qu'il n'y a pas pénalty. Non, mais attendez,
non.
Mais attendez, quand j'entends la demoiselle parler, la dame parler, elle parle de Deschamps qui jouait, là, c'est pas la même façon de jouer.
Milieu de terrain
ou défenseur. Mais c'est du n'importe quoi quand vous entendez ça. Ce que je veux dire, c'est que le penalty, à chaque fois qu'il y avait un coup franc, trois fois il y avait un coup franc dans la surface de réparation, les Espagnols manifestaient et à chaque fois l'arbitre revenait sur sa décision.
Lucien, vous dites que c'est l'arbitre le problème.
Vous avez regardé 90 minutes et vous avez vu que les.
Je dis simplement que l'arbitre a joué un rôle énorme sur cette demi-finale.
Non,
de toute façon, pendant toute cette Coupe du Monde, l'arbitrage est catastrophique.
Et forcément, c'est la France qui le subit.
Arrêtez.
Vous êtes un peu de mauvaise foi, Lucien, quand même.
Non, je vous assure que non. Regardez les images. Revisionnez. Quand vous faites une émission, qu'il y a quelqu'un, un spécialiste qui vous encadre.
On a tous regardé les images.
On a tous vu 50 fois les images.
Regardez bien et vous me rappelez, vous allez me dire, excusez-moi Lucien, je me suis trompé.
J'ai dit
des conneries.
On va pas dire ça parce que déjà, moi en tout cas pour ma part, j'ai pas une mentalité de me défausser sur les autres.
Non,
l'arbitre,
madame,
peut-être
madame.
Qu'il n'était pas excellent, mais je peux vous dire qu'on a été zéro. Vous avez vu de l'envie, vous avez vu de l'envie, vous avez vu de l'agressivité. Est-ce que vous avez vu le match?
Il y en a eu un moment. moment, mais
non,
trop
oui,
tard.
Bah à la fin. Oui,
dans la dernière
vous avez vu d'autres matchs, par exemple. Regardez le match du Cap-Vert et de l'Argentine. Vous avez vu comment c'était. Vous avez vu comment c'était jusqu'à la dernière seconde. Bah non, alors arrêtez.
Là, on est là pour parler de France-Espagne.
On est de la France. On est la France. Excusez-moi.
Voilà. Alors moi je vous dis, l'arbitre il nous a défoncé du début jusqu'à la fin.
Écoute Lucien,
Il nous a quand même accordé des coups francs.
Sincèrement hier, il y a faute de Lucadigne. Elle est incontestable la faute de Lucadigne.
Messieurs dames.
Elle est incontestable la faute de Lucadigne. Elle est peut-être involontaire, mais il y a faute.
Et l'arbitre
ne peut que siffler cette faute.
Mais le bras de Yamal, il est obligé.
Mais le bras, non non.
On a perdu des ballons au milieu. Enfin je veux dire,
c'est pas ça les règles.
Arrêtez de vous disperser comme ça. Sinon, on va pas comprendre.
Lucien, je crois que vous êtes encore dans la colère.
J'essaye simplement de remettre l'église au milieu du village.
Non, sinon, vous dites que.
Voilà.
Bah, on posera la question. Daniel Riolo sera avec nous tout à l'heure. On lui posera la question de Garcia Penalti. Il sera avec nous, Lucien, dans quelques minutes. Mais après, on peut pas résumer, à mon avis, ce match
à
ce penalty. C'est vrai que malheureusement, ça a rendu des choses plus compliquées. Mais il n'y a pas eu de réaction derrière. Et l'équipe de France a été dominée pendant tout le match, Lucien. Et ça, c'est pas l'arbitre qui est responsable de ça. Cette domination espagnole, c'est pas l'arbitre qui l'a inventée. C'est parce que les Espagnols étaient meilleurs hier.
C'était meilleur.
Pierre est avec nous. Merci Lucien. Et écoutez, parce que Daniel sera avec nous dans un instant, on lui posera la question sur l'arbitrage. Pierre est avec nous. Bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour l'équipe.
Vous appelez de Toulouse. Vous avez vu le match également. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors déjà, en aparté, pour l'arbitrage, il n'a pas été plus nul que ça, parce qu'il y a clairement pénalty, et encore, on s'en sort bien, parce qu'Olysée, s'il prend rouge sur Rodri, il n'y a pas scandale non plus, donc on ne va pas se plaindre de l'arbitre. Moi, ce que j'ai vu surtout, c'est un Didier Deschamps qui, au final, était complètement dépassé et a montré que, certes, c'est un grand leader, un grand meneur d'hommes, mais c'est pas un grand tacticien, quoi. Parce qu'en fait, il a eu un plan A, mais pas de plan B. Alors déjà, on est rentré dans le match, je pense, beaucoup trop confiant, avec de la nonchalance, alors qu'il fallait montrer les crocs et leur rentrer un peu dedans. Donc ça, on l'a pas fait dès le début. Alors les Espagnols, ils adorent ça. Les Espagnols, c'est une équipe qui adore endormir sa proie avant de la tuer. Donc on est rentré tranquillement dans leur faux rythme. Nous, on s'est complètement laissé bercer. On a baissé la tête. On a dit, ok, tuez-nous, allez-y. Deschamps, je suis désolé, mais à la 30e minute, il doit se rendre compte que le milieu de terrain,
Il faut sortir Olysée plutôt.
Il doit sortir Olysée ou Barcola ou même un attaquant pour faire rentrer un milieu de terrain, mettre un peu plus de densité dans l'entrejeu. Mmh. Et surtout, c'est là que je vois que il y a d'autres tacticiens, notamment le meilleur du monde au PSG, qui lui sait s'adapter à son adversaire. Là, tu dois mettre un milieu de terrain en plus. Et en fait, je pense qu'on aurait dû avoir un milieu de terrain dont la mission principale, tu lui dis, tu marques au marquage, tu mets Rodri, tu te mets sur Rodri, qu'il ait le ballon ou qu'il ait pas le ballon, t'es dans son short. Mmh. Et là, déjà, on aurait peut-être muselé leur principal chef d'orchestre quand même, tu vois, au niveau tactique, déjà là, tu mets un mec, tu regardes même pas le ballon, tu mets sur Rodri, tu le suis à la trace.
Donc il y a eu un défaut de tactique.
Olivier, toi qui es supporter du PSG,
oui.
Des fois, même si nous on aime avoir le ballon, regarde le match retour contre le Bayern Munich, des fois, il faut accepter d'attendre l'adversaire dans notre
entête.
Vous voulez le ballon, prenez-le. Jouez dans vos 50 mètres, faites tourner le ballon. Nous, on attend dans nos 30 mètres, on quadrille, et par contre, dès qu'on a le ballon, on vous tue.
Et Pierre, vous voyez, là, ce qui manquait, c'est que Ruiz, puisque vous parlez du PSG, Ruiz, il n'était pas dans notre camp cette fois-ci. Il était du côté espagnol et il a manqué. C'est vrai que leur milieu de terrain était nettement supérieur au nôtre. On va continuer d'en parler. Daniel Riolo va nous rejoindre avec cette question. Hein, merci Pierre au 32-16. Est-ce qu'on s'est vu trop beau? Est-ce qu'on a finalement trop dit avant le match qu'on était les meilleurs, qu'on allait gagner cette Coupe du Monde? Est-ce que c'est pas d'ailleurs un défaut un peu français? On en parle avec vous au 32-16 à tout de suite avec Daniel Riolo qui rejoint et qui sera face à la table des grandes gueules. À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules de bois ce matin, après la défaite cuisante des Bleus hier soir. On est battu sans panache, on sort de cette Coupe du Monde alors qu'on pensait pouvoir la remporter. On en parle avec nos GG qui ont toutes vu le match, c'est rare. Même Charles Consigny était devant son écran, Philly Rock et Joël, bien entendu. Pour essayer d'en parler, il faut prendre les spécialistes, ceux qui savent. C'est pour ça que Daniel Riolo nous a rejoint.
Sur un tel match face à une telle équipe, il faut être au maximum, mais l'équipe de France ne l'était pas ce soir.
Voilà, c'est Didier Deschamps qui partira bientôt. Il lui reste un match, la petite finale samedi.
Le match qui ne sert à rien.
Le match qui sert à rien, qui en général rend encore plus triste. On se dit, on préférait être dans le vrai match, la finale, le lendemain. Est-ce qu'on s'est bu trop beau?
Absolument. Mais les grandes compétitions internationales comme ça, elles donnent toujours lieu à un enthousiasme démesuré. Parce que c'est un moment de joie, une espèce d'extase collective. Bon, l'actualité est toujours un petit peu morose. Dans les émissions, on parle toujours plus de ce qui va pas que de ce qui va. Et là, vous avez le foot qui arrive comme ça, qui déboule juste avant l'été. Il suffit de 2-3 matchs. Et évidemment que ça s'enflamme parce que vous les connaissez, les scènes de joie, de liesse populaire quand l'équipe de France gagne en Coupe du Monde ou quand elle avance. Et puis là, on était plutôt dans une bonne période. Victoire en 2018, la finale de 2022. Là, vous êtes encore en demi-finale. Il y a une équipe avec des joueurs qui, dans leur club, sont tous d'excellents joueurs. Donc, tous les voyants étaient au vert pour estimer qu'on avait une très bonne chance d'aller au bout.
Mais ce qui est assez agaçant, c'est la façon dont on a perdu, parce que on savait que face à l'Espagne, c'était pas gagné d'avance. C'est une équipe.
Le fait de donner cette impression.
On a tous été frustrés par la prestation des Bleus. Moi, j'aurais préféré qu'on perde avec panache, que ça soit au dernier sur un but contre supplémentaire des Espagnols.
Contre l'Espagne, vous pouvez pas perdre avec panache parce que de toute façon, le panache, il est pour eux. C'est eux qui ont le ballon et c'est eux qui pratiquent le beau football, comme on l'appelle. Donc en fait, la solution pour les battre, c'est plutôt de jouer sale. Vous battez pas les Espagnols en étant plus beaux qu'eux. Vous les battez en trouvant une autre solution.
Et on sait faire ça.
L'ADN des champs, c'est de savoir faire ça. Parce que je rappelle quand même qu'en 2018, quand ils sont champions du monde, dans l'after, je fais partie des gens un petit peu bizarres, puisque c'est souvent comme ça qu'à l'époque on me qualifiait, qui disait c'est très bien de gagner, c'est formidable de gagner, on est champion du monde, mais la manière dont on joue, je ne l'aime pas, je m'ennuie. Dans les années qu'on suivit, jusqu'à l'Euro 2024, on a été demi-finaliste encore contre l'Espagne. Je me souviens d'un sondage à ce moment-là dans les gens qui aiment le foot, qui dit à plus de 1 sur 2, les gens disaient on en a ras-le-bol de Deschamps, c'est plus possible, on s'ennuie devant la télé. Les audiences étaient en baisse. Et on avait eu cette phrase de Deschamps absolument terrible, c'était juste il y a 2 ans, je vous parle pas d'un truc il y a 10 ans, où il avait dit écoutez, si vous êtes pas content, vous changez de chaîne. Et là on avait fait des émissions pour dire mais il a pas le droit de dire ça. Parce que l'équipe de France, elle appartient à tout le monde. L'équipe de France, c'est pas 2 millions comme devant la télé, comme les matchs de championnat. C'est 12, c'est 15.
Et hier, c'était plus de 20 millions.
Exactement. C'est 20. C'est toute la France. Ouais. Des gens qui regardent, comme Charles, qui regardent pas le foot toute l'année. Et eux qui veulent juste passer un bon moment. Il a pas le droit de leur dire, si t'es pas content, tu changes de chaîne. Et Charles, il achète un bon maillot, on lui offre un bon maillot et tout. On peut pas lui dire, tu changes de chaîne. Et donc, les gens en avaient ras-le-bol. Et là, on arrive à la Coupe du Monde avec 4 attaquants.
On n'avait jamais eu une équipe aussi offensive avec Didier Deschamps.
On est tous très enthousiastes. On dit c'est formidable. Et même nous, je l'avoue, je l'ai même dit hier soir dans l'after, j'estime qu'on s'est énormément trompé dans nos analyses. On a tous perdu pied aussi parce que l'engouement collectif, le moment de joie qu'on veut partager avec les Français fait qu'on s'emballe un petit peu trop. Mais on n'a pas vu qu'on a battu personne. Enfin, on le voyait, on le disait, mais c'était noyé sous les éloges.
On avait quand même rencontré des équipes assez faibles.
Il y avait les éloges et puis après. Ça n'est que le Qatar. C'est l'équipe B de Norvège qu'on est en train de jouer. C'est la Suède qui a galéré pour se qualifier à la Coupe du Monde, à qui on est en train de donner une leçon de football. Puis après, t'es arrivé le Maroc. Mais le Maroc, ils étaient un peu en bout de piste. Ils avaient tout donné. C'était au final une équipe moyenne. Et le problème, c'est qu'avec ce chemin globalement facile, vous retrouvez quand même en demi-finale. Normalement, demi-finale de Coupe du Monde, on estime qu'il faut à une époque. C'était beaucoup plus dur d'arriver en demi-finale. Mais la nouvelle formule d'Infantino avec ses 48 équipes, on a dilué la compétition. Les gros ont été protégés et ont pu avancer dans la compétition.
Donc on n'avait jamais vraiment vraiment testé cette équipe de France.
Non.
Le test était hier soir.
Et c'est ce schéma de jeu, 4 attaquants, sans plan B. Il y a un de vos auditeurs qui l'a dit tout à l'heure. Il y avait ce plan A qui nous a tous un petit peu réjouis. Oh, l'ADN Deschamps, du jeu ennuyeux, c'est terminé. Maintenant, c'est un petit peu, il y a un petit peu plus de champagne. Enfin, un peu plus de bulles dans le champagne.
Mais finalement, il fallait moins de champagne.
En fait, non. Contre l'Espagne. Non. Et on est passé d'une presse mondiale qui, il y a deux jours, disait, la France illumine le monde. Ils vont être champions du monde. Et ce matin, les mêmes papiers, la presse mondiale allume les bleus.
Ouais. Voilà, on aime bien brûler ce qu'on a adoré aussi, ça c'est assez classique.
En aussi peu de temps, ça va vite quand même. C'était 48 heures.
Est-ce que c'est d'ailleurs injuste? Est-ce qu'on n'est pas trop dur avec cette équipe de France parce qu'on a quand même rêvé avec elle il y a
et
encore
puis elle est quand même
jours.
En demi-finale et la période
ouais,
est plutôt
dur, je
plutôt
sais pas, c'est bah, j'ai le sentiment en effet, enfin l'analyse me semblait assez juste quand j'écoutais, c'est peut-être qu'ils sont très très bons avec les médiocres. Faut peut-être aussi se dire ça. Oui. C'est-à-dire que finalement, on est peut-être une très très bonne équipe qu'on est face à des médiocres. Et si on est face à des très bons, c'est peut-être nous qui devenons médiocres, en fait. C'est peut-être juste ça qu'il faut intégrer et ça changera pas, quoi.
Je suis d'accord avec ce que dit Daniel?
Ouais, mais après, j'ai pas envie de trop cracher sur l'équipe parce que j'ai regardé un peu le bilan des grosses nations de football, notamment ceux qui ont le plus de coupes du monde. L'Allemagne, par exemple, et l'Italie.
Absolument.
Où il y a un effondrement. Total, pendant que nous, depuis Deschamps,
on se compare, on enchaîne. On se console.
Bah, il faut dire, bah, c'est pas ça, mais il faut dire aussi, il faut regarder, normalement, on devait se battre, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie, voilà. Et qui, les Pays-Bas, par exemple, qui se sont effondrés depuis l'ère Deschamps, et nous avons, continué à rester, constants, notamment sur les Coupes du Monde.
Vous avez parfaitement raison, j'allais dire quoi qu'il en soit, on reste, top 3, top 4 monde, ce qui en soi est pas mal. Ce qui fait juste mal, c'est de se faire...
C'est la façon
2024,
dont on a perdu.
2024, 2025, 2026, trois années de suite par l'Espagne qui nous promène
exactement.
Sur le terrain. C'est ça qui met une grande claque.
Mais alors, ce que je comprends pas, Daniel, pardon, mais Didier Deschamps, parce que hier, tout le monde dit, l'Espagne, elle a joué comme elle joue à chaque fois.
Oui.
Pas de surprise.
Oui.
Bon, bah, Didier Deschamps, il s'est pas dit, il faut que je trouve la bonne tactique pour déjouer, effectivement, et trouver la
c'est
faille.
C'est là où je me dis que le
Didier Deschamps tacticien, on l'a pas vu hier.
Non, mais on l'a pas souvent vu historiquement le tacticien, le manager, celui qui sait construire un groupe et faire vivre les joueurs ensemble. Ça, oui, c'est quelque chose qu'il sait bien faire. Et d'ailleurs, le problème, en fait, il naît de là, parce que avant la Coupe du Monde, il y a eu une sorte de pacte entre les joueurs et lui, comme pour dire bon, bah c'est la dernière compétition de Deschamps, il va s'en aller. Je vous disais tout à l'heure à quel point énormément de gens commençaient à en avoir un petit peu marre des matchs des Bleus où on piquait du nez quand on regardait. Et il y a eu cette espèce de pacte où Kylian Mbappé en capitaine avec les joueurs. Parce que faut quand même se dire qu'on a des joueurs qui en club brillent. Vous avez Dembélé, deux fois champion d'Europe avec le PSG. Kylian Mbappé, meilleur attaquant du monde. Michael Olise qui joue au Bayern Munich. Il y a deux mois, certains disaient s'il brille à la Coupe du Monde, le Ballon d'Or est peut-être pour lui. Associé à Barcola ou Doué, qui sont également champions d'Europe.
Vous citez toujours les mêmes. Mais moi, si je vous cite Lucas Digne, qui s'est complètement baladé hier. Si je vous cite Jules Koundé, je trouve qu'on on a une défense on a vu toute la limite de la défense. Et peut-être sans le cachet aussi, on n'en parlait jamais des latéraux.
Je vous parle de ces joueurs-là parce que, en gros, pour pas de faire le choix, parce qu'il aurait fallu
sortir terrain
un,
qui était pas
parce qu'il aurait fallu sortir un de ses forts devant, il y a eu cette espèce de pacte où on a dit, bon, allez, on va tous courir, on va tous se sacrifier pour l'équipe, parce que normalement, l'attaquant toujours défend un petit peu moins. Allons-y, nous allons changer de style. Nous allons, comme vous le disiez, mettre un peu plus de panache. Nous allons attaquer. Mais contre l'Espagne, non. Évidemment, contre l'Espagne, il fallait analyser les choses différemment et dire, on va mettre un milieu de terrain supplémentaire. On va, en gros, verrouiller le jeu un petit peu plus. Or, on a voulu y aller comme ça, un petit peu fleur au fusil. Et à la 5e, 6e minute, j'ai vu les visages des Français, même celui de Deschamps sur le banc. Waouh, on n'a aucune solution. Là, on est parti pour regarder le ballon nous passer sous le nez et ne trouver aucune faille dans cette équipe espagnole.
Avant d'accueillir Steve, Charles, d'accord avec tout ça?
Oui, alors moi, je ne suis pas encore une fois spécialiste. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de stratégie en réalité. On sentait les Espagnols très affûtés, très dans un jeu assez réfléchi,
très collectif,
efficace. Et les Français, à la fois, je trouvais que c'était mou, que ça courait pas, qu'on était encore une fois en sous-effectif, et que de temps en temps, on se disait bon allez, on va quand même essayer quelque chose. Et donc il y avait deux trois poussées, deux trois tentatives, mais un peu hasardeuses. Donc je les ai trouvés pas. Je sais pas préparé. J'ai trouvé ça très curieux, comme s'ils étaient, comme si on les avait drogués. Ah bon. Tu vois, mais tout est possible.
C'est une piste.
Hein.
C'est une piste. Le GA joué dans les verts.
Le manque de stratégie, il est évident. Le manque de stratégie, c'est ça qui saute aux yeux dès les premières minutes.
On ne change pas de stratégie. On a quand même 90 minutes pour en changer. C'est possible dans un match de changer de stratégie.
Évidemment, surtout que maintenant, depuis quelques années, vous avez droit à 5 changements. Vous vous rendez compte, 5 changements.
Et des postes fraîcheurs, on peut aussi dire les choses aux gens.
5 changements, c'est quasiment la moitié de l'équipe que vous changez. En tout cas, c'est la moitié des joueurs de chambre. Vous pouvez les changer. Et vous avez effectivement cette espèce de truc absolument horrible qui s'appelle la pause fraîcheur.
Même quand il fait 20 degrés.
Ou, exactement. Non, en fait, c'est une pause publicitaire, mais on la maquille.
Oui, mais c'est une pause qui peut permettre au coach aussi de dire, bon, les gars, ça marche pas 20 minutes.
3 minutes, c'est énorme. Vous avez le temps de passer une page de pub, d'aller vous chercher une boisson au frigo. Vous avez le temps de passer des consignes et de changer les choses. Rien n'a été changé. C'est comme si, dès les premières minutes, ils avaient pris un coup de gourdin sur la tronche et ils ne se sont jamais relevés.
Steve est avec nous au 32-16. Bonjour Steve.
Bonjour les grandes gueules. Bonjour
vous appelez de l'Essonne, en région parisienne. Oui. Vous avez la gueule de bois, vous aussi, parce que c'est un peu le sentiment qu'on a ce matin quand même.
Ah, c'est pire que ça. C'est une grosse gueule de bois. Je me suis couché avec la migraine. Je me suis réveillé avec la migraine à 5h du matin, comme un lendemain de défaite du Paris Saint-Germain. Mais Dieu merci, ça c'est du passé. Non, ce matin, je suis très déçu, mais je vais tirer sur l'ambulance. Il y a un seul responsable, c'est Didier Deschamps. Ah. Dès le début du match, la composition, il y a Aurélien Tchouaméni qui est blessé depuis les 16e de finale. Comment tu peux le faire jouer un demi-finale contre l'Espagne où tu es en manque de rythme, où tu as Manu Koné qui tient la baraque pour les 8e et les quarts de finale? Il devait être titulaire. Et ce matin, si Deschamps nous écoute, j'ai une question à lui poser concrètement.
Est-ce que Tchouaméni nous écoute depuis les États-Unis?
Est-ce que Tchouaméni et Koundé, est-ce que c'est ses gendres ou pas? Est-ce que c'est ses gendres? Est-ce que c'est de sa famille? Mais fais-les sortir, bordel! Tu vois un gamin comme Warren Zaïre-Emery qui fait une saison fabuleuse avec le Paris Saint-Germain, mais comment ce gamin, il fait même pas 30 minutes dans la Coupe du Monde? Comment c'est possible? Rabiot, t'as pas le droit de le sortir, il prend un rouge, mais on n'a pas le droit,
il prend un jaune.
On n'a pas le droit de le faire jouer. Tu lui dis, lève les pieds, etc. Mais Rabiot, il avait compris l'enjeu. Au football, on te dit, le premier contact, c'est le plus important. Tu mets la semelle, tu mets le pied, tu mets le coude. C'est toi le patron, premier sur les ballons. Dès les 3 premières minutes de jeu, on a senti, ils étaient groggy. J'ai eu l'impression de revivre la finale contre l'Argentine où on perd ce maudit match en première mi-temps où ils étaient abasourdis. Alors on a joué le Sénégal, champion d'Afrique, super. On a joué la Norvège, équipe B, super. On l'a mis à la table des plus grands. Pour faire quoi au final? S'il vous plaît, pour faire quoi? Quand il y en avait un qui était en détresse, il y avait Dembélé qui était là, Mbappé qui était là. La seule chose que je dis à Deschamps bravo, c'est pour la rotation entre Barcola et Doué, où ça c'était super, mais le reste, tu vois qu'ils sont drogués à la mi-temps, mais faire rentrer Koné, faire rentrer un quatrième attaquant, un cinquième, qu'on prenne 3-0 ou 1-1, c'est pas la même chose. Alors vas-y, lâchez les chevaux.
Koné est entré, il s'est noyé aussi.
Oui, ça n'a pas changé grand-chose.
Et l'argument sur Rabiot, le problème c'est que s'il a pris un carton jaune si vite, c'est justement que parce qu'il était bon à ce moment-là dans le combat, il a trop donné. Et d'ailleurs, juste après, il y a une faute, une deuxième faute, où vraiment il est limite.
Oui.
Et on se dit que s'il arrive la troisième, pas anecdotique. Moi, depuis hier soir, j'entends parler de ça. C'est pas honnêtement. Si à la mi-temps vous êtes réduit à 10 ou si à la 50e il prend le deuxième et il sort, on aurait dit quoi à Deschamps? On lui aurait dit le contraire. On dit, comment tu n'as pas pu anticiper? Tu voyais bien qu'au milieu ça devenait très compliqué, qu'on courait après le ballon, et quand tu cours après le ballon,
tu multiplies
le risque de faire la faute. Et quand t'as déjà un carton jaune, le rouge peut te tomber dessus et tu te retrouves à jouer 25, 30, 40 minutes à 11 contre 10. Là c'était carrément cuit de chez cuit. Donc moi le changement, je le trouve pas complètement fou. Depuis hier j'entends parler de ça.
C'est que ça tombe sur Rabiot.
Ça tombe sur lui parce qu'à ce moment-là, il est dans le combat et c'est un de ceux qui est le plus présent pour aller rattraper le ballon qu'on n'arrive pas à attraper et il prend un carton jaune et le carton jaune, il est indiscutable. Juste après, il refait une faute qui est vraiment limite. Et Olise, qui lui aussi est au milieu, essaye de courir, fait une faute.
Il aurait pu prendre un rouge.
Il aurait pu prendre un rouge. Donc ça veut dire que quand vous êtes à cette extrémité de contact, ça veut dire que vous ne maîtrisez plus le geste que vous faites. Donc ça devenait très dangereux et ça montre bien à quel point on était dépassé.
Une dernière question. Merci Steve d'avoir appelé au 32-16. Une dernière question. Est-ce que l'arbitrage est fautif? Par exemple, le fameux penalty avec Lucas Digne.
Ça n'a même pas été contesté.
Tout à l'heure, Lucien est avec nous au 32-16.
Lucien, il était pris par l'émotion. Il
dit c'est à cause de l'arbitrage, il n'y a jamais penalty. Il y a main de Yamal avant. Non,
vous savez que maintenant, il y a toujours plein d'arbitres qui sont interrogés suite à ce genre de fautes. Il n'y a aucun arbitre n'a contesté. Il y a penalty 100 fois.
Oui.
100 fois. Évidemment qu'il y a
même si la faute semble involontaire, il y a faute.
Ah mais faute involontaire, ça veut rien dire. Vous avez vu le coup de pied qu'il lui met.
Ah bah oui.
Il rate le ballon. Non, parce que le seul qui est coupable sur cette histoire, c'est Digne, ouais. Qui voit pas qu'il a Yamal dans son dos, qui apprécie très mal la trajectoire du ballon, qui visiblement a du mal à savoir où il est positionné sur le terrain. Ah, je suis dans la surface. Ah oui. Tiens, l'attaquant arrive. Bim, il dégomme la cuisse. Non, voilà, ouais, incontestable.
Ne pas se défausser sur l'arbitrage.
Non. De toute façon, c'est souvent preuve de lâcheté et ça montre qu'on n'a pas maîtrisé le match.
Merci Daniel d'être venu dans les grandes journées. Et tu sais que Jérôme Rotten. On a plein de choses. Là. Oui, on va parler de la hausse des carburants, on va parler des Canadaires, on en manque. Et puis Jérôme Rotten sera tout à l'heure face au GG également. On aura son analyse. Allez, on continue. À tout de suite sur RMC, RMC Story. Merci Daniel.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec autour de la table aujourd'hui Charles Consigny, l'avocat, la coach de vie Joël Dagossiri, et une petite nouvelle, une prof de lettres, Ophélie Rock. Tout se passe bien, Ophélie?
Tout se passe bien.
On a beaucoup parlé foot. Rassure-toi, ce n'est pas l'after. Hein. On continuera à en parler tout à l'heure avec Jérôme Rotten, mais là, on va parler de reste de l'actualité, et notamment de des petites infos qu'on pioche dans l'actualité avec Anaïs Sens qui nous a rejoint.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour Olivier, bonjour les GG, bonjour à tous. Rachida Brakni devait recevoir la Légion d'honneur aux côtés de Nathalie Portman, Christine Lagarde, Pierre Arditi ou encore Richard Malka. Promotion annoncée hier, celle du 14 juillet. Mais l'actrice de Baron Noir et l'épouse aussi d'Éric Cantona a dit non. Elle refuse cette distinction. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël?
On s'en fout pas.
Ophélie.
Ah, moi, je m'en fous complètement.
Charles. J'apprends avec surprise que l'on me décerne la Légion d'honneur, indépendamment du fait qu'elle est attribuée à tour de bras, pour le meilleur et souvent pour le pire. La question de l'honneur se pose. Le mien se situe ailleurs, je le refuse poliment, a écrit donc Rachida Brakni dans une story Instagram hier. Mon cher Charles.
Est-ce que c'est bien de sa part de refuser, de ne pas participer à ça?
Oui, il y a plein de personnalités éminentes qui ont refusé la Légion d'honneur.
Il y en a plus qui disent oui que non, quand même.
Bah oui.
Je trouve que c'est quand même.
Tu l'accepterais?
Non.
Ah bon?
Non. Je trouve que c'est quand même un truc de tocard. En tout cas, elle a raison de dire qu'on la donne à n'importe qui. Il y a beaucoup de gens qui font le pied de grue pour l'avoir. C'est vraiment un hochet. Ça a été conçu comme ça par Napoléon. C'est une manière de domestiquer les individus. Et je ne suis pas forcément fan, moi, de
Joël.
L'institution.
Bah, c'est tout à son honneur. Elle a une moralité bien plus haute que moi. Parce que autant je m'en fiche. Je veux dire, je ne vais pas courir après ce genre de truc. Autant si tu me convoques et que tu me dis, viens chercher une Légion d'honneur. Bon, bah, écoute, je mets ma plus belle robe et j'y vais, hein, écoute. Franchement, mais je peux comprendre qu'on puisse la refuser. Oui. Elle a sûrement ses raisons, elle a sûrement des raisons.
Moi, je comprends pas toujours les critères. Mais... Parce que dans la liste de ceux qui l'ont eu, il y a, vous vous souvenez d'Hervé Guémard?
Oula,
l'ancien ministre.
Alors,
je vais vous rafraîchir la mémoire. Hervé Guémard, il a été ministre et il a été contraint à la démission. Ça remonte à 2005 parce qu'on s'est aperçu qu'il avait un logement de 600 mètres carrés qui était payé par l'État, aux frais de l'État. Il avait une grande famille. D'ailleurs, il avait justifié qu'il avait besoin de 600 mètres carrés à Paris parce qu'il avait
100 mètres carrés par personne.
Mais il avait beaucoup d'enfants.
Et alors, on s'était aperçu que par ailleurs, il avait un patrimoine de 2 millions d'euros. Donc, il avait largement les moyens de se payer. Donc, il avait été démissionné. Ça avait fait un scandale à l'époque. Et en 2005, vous savez, les grandes gueules existaient. Ça faisait un an, et je me souviens, on avait beaucoup parlé de cette histoire. Et là, donc, 21 ans après, il se retrouve sur la liste de ceux qui ont la Légion d'honneur. Voilà, c'est assez curieux. Après. Allez, on enchaîne.
Bon, en Corse, les GG, concert de klaxons et fumigènes même aperçu à Bastia hier soir après la défaite de la France.
Ça, c'est dingue, ça.
Déjà il y a 4 ans, hein, on avait vu des scènes similaires lors de la défaite des Bleus en finale face à l'Argentine. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël?
On s'en fout pas.
Ophélie?
Ouais, là pour le coup on s'en fout pas.
On s'en fout,
Charles. Pourquoi, à votre avis, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est non, le nationalisme corse, un peu bête et méchant, non?
Ophélie, ouais. Alors, je suis très partagée parce que moi, ma grand-mère est d'origine corse, ma nanti, elle a été élevée elle-même par sa propre grand-mère qui ne parlait que corse. Donc, j'entends que cette île a envie peut-être d'une partie de son indépendance, mais le problème, c'est que la Corse ne peut pas exister toute seule. À un moment, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, elle n'a pas les moyens. Elle voudrait jouer en Ligue 1, pour reprendre tout à l'heure un petit peu la métaphore du foot, mais elle n'a pas les moyens du tout. Donc, cracher quand la France en effet perd, je trouve que c'est ridicule. C'est pas ça en tout cas qui fera, qui leur redonnera, c'est leur propre fierté de toute façon. Donc, à quoi ça sert?
Ouais, célébrer une défaite.
Ça sert à pas grand-chose.
Ouais. Joël?
Non, mais voilà, c'est des nationalistes. Mais on va, j'aimerais bien voir quelles sont les réactions à ça, parce que quand on chante pas la Marseillaise, tout d'un coup, on est anti-patriote, on déteste la France. Par contre, quand on l'a, on fait craquer des feux d'artifice et des klaxons.
Ça choque.
Parce que la France est en
délocalisée
défaite.
Dans une rue.
Oui, 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 bien sûr. Bon. Voilà. Là, par contre, on, voilà, j'ai pas entendu pour l'instant de réaction.
Charles,
non, c'est minable. C'est minable, et ceux qui font ça sont des minables. Moi, j'adore la Corse, mais franchement, ces gens-là la déshonorent. Je suis sûr que les Corses, d'ailleurs, ne soutiennent pas cet anti-patriotisme qui se veut patriotisme corse et qui ne concerne que trois gamins désœuvrés qui s'ennuient et qui feraient mieux de travailler au lieu de tenir les murs de leurs immeubles.
C'était peut-être des touristes espagnols.
Oui, finalement, en fait.
Attends. Bon, les GG. Cette info du canard enchaîné, le mari de Stéphanie Rist, vous savez, la ministre de la Santé, eh bien, il vient d'être promu conseiller d'État en service extraordinaire.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, une promotion très rare, réservée à quelques privilégiés triés sur le volet, lit-on dans l'hebdomadaire. C'est Olivier Boyer, donc, bénéficie de cette promotion, l'ancien directeur du CHU d'Orléans. Il est nommé pour 5 ans. La proposition émane de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. Alors, c'est quoi un conseiller d'État en service extraordinaire? Selon le code de la justice administrative, ce poste exerce des fonctions consultatives et juridictionnelles. Voilà. On n'en saura pas plus.
Ça a l'air bien, ça.
On n'en saura pas plus. Ah,
oui, combien t'es payé conseiller d'État en service extraordinaire? Déjà, ce terme est extraordinaire.
Pour un mec qui fait du consultatif.
Bon, Charles, tu t'en fous pas non plus.
Ophélie,
on s'en fout
pas, non?
Joël.
Ophélie, t'aimes bien ça? T'aimerais bien être conseiller d'État en service extraordinaire?
Ouais, être payé à rien faire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est lamentable. On est dans une république qui s'enfonce. Et on a encore le moyen, l'énergie suffisante pour nommer des gens à ces postes-là, qui ne servent à rien et qui nous coûtent cher, c'est incompréhensible.
Avec un petit soupçon quand même de conflit d'intérêts, puisque c'est le mari de la ministre de la Santé.
C'est pas un petit soupçon, là. Les preuves sont là. Il faut un moment tirer les conclusions. Ça ne va pas du tout.
Joël.
Non, mais ils se servent entre eux.
Ouais. Voilà.
Est-ce que c'est pas le pouvoir qui. La fin d'un pouvoir, donc on place ses copains, on se recase, parce qu'on sait qu'à un moment donné, dans un an, on sera plus là.
C'est pas la fin d'un pouvoir, mais j'ai quand même l'impression que c'est un pouvoir, au contraire, qui tourne à plein régime et qui se sert, ils se servent les uns les autres. Alors, on va pas. Je mets pas en cause les compétences de ce monsieur, mais on va pas me faire penser que c'est pas un truc avec allô Gérald, ouais écoute mon mari, là ce serait bien que machin, des petits services rendus. Enfin, je veux dire, c'est
mais déjà pourquoi
écœurant,
ça existe conseiller d'État en service extraordinaire déjà. Plus,
le titre, enfin c'est ronflant, c'est ronflant, et t'apprends derrière que c'est consultatif. Non mais franchement,
Charles.
Non, on est vraiment dans l'abus total et l'ancien régime.
C'est la caste.
C'est vraiment la caste. C'est comme ceux qui se recasent à la Cour des comptes. En fait, on sait très bien qu'ils n'y font rien. Eux-mêmes savent qu'ils ne vont rien y faire. Simplement, ça leur assure un salaire, tout simplement. Donc, on est vraiment un traitement. C'est exactement comme à l'époque des rois, où on attribuait... à l'époux, enfin à la favorite du duc de machin truc, une charge, quelque chose, tout ce qui permet de nourrir quelqu'un sans qu'il se fatigue. Et en fait, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont simplement pas envie de se fatiguer, avoir un vrai travail. Et donc, évidemment, c'est beaucoup plus confortable d'être conseiller d'État en service extraordinaire avec des fonctions consultatives. C'est-à-dire, en gros, le gars, il ne va rien faire du tout.
Et pendant qu'il y a des conseillers d'État en service extraordinaire, il y a des Français qui galèrent à la pompe parce que vous avez vu, les prix du carburant repartent à la hausse alors que les vacances ont commencé, vont commencer. Et il y a un député socialiste de l'Eure, Philippe Brun, qui estime que la façon dont le gouvernement a aidé les Français n'est pas la bonne. Il faut baisser les taxes à la pompe. C'est la solution, comme en Espagne. Est-ce qu'il a raison? On en parle avec vous au 32-16. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.